me now if I fall for you. Sometimes there is no next time, just regret, no second chance. And we will only remember the path we didn't take. Tell me now if I
Gaël Buzwell, ça faisait partie de l'album qui s'appelait New Days Waiting, voilà, c'était pas Yesterday Shadows du tout, New Days Waiting, avec If I Fall, en titre en dédicace à Thierry Hénat, mes amis. On se retrouve avec grand plaisir samedi prochain, voilà, hein, Gaël Buzwell pour vous. On poursuit avec une dernière dédicace pour Maryse de Conin, qui m'a réclamé un titre du Lee O'Neill Blues Gang. Eux, ils seront également invités de Sweet Home Chicago, ce sera pour le 10 octobre, ce sera pour la prochaine émission, parce que les deux prochains samedis, il n'y aura pas de Sweet Home Chicago, on se retrouvera dans 3 semaines. Nous, on est ensemble jusqu'à 15h, et juste après le morceau qui vient, on aura Fred Chapelier en interview, en direct, s'il vous plaît. Alors, si vous avez des questions à lui poser, vous allez sur le Facebook Sweet Home Chicago, vous posez directement dans la conversation qui concerne l'émission votre question, et je me ferai un plaisir de la lui poser en direct. Voilà, Fred Chapelier, juste après ce titre de Lionel Blues Gang, Shades of Love, ça s'appelle Switch of the Moon. We'll be right back. Voilà cet extrait d'un album qui s'appelle Shades of Love, signé le Neil O'Neill Blues Gang, avec au chant Gypsy Bakuet et puis Lionel Werner aux guitares, lead guitare et guitare rythmique. À la basse, c'est un certain Philippe Dandrimont, que vous connaissez peut-être, et Jonathan Tillot à la batterie. Et puis également figure sur plusieurs titres de cet album un certain Fred Chapelier à la deuxième lead guitare. Fred Chapelier, bonjour Fred.
Bonjour Marco.
Ah, toujours un grand plaisir de parler avec toi. Deuxième interview 2020 avec toi, parce que tu as toujours une actualité bouillonnante, que quoi qu'il t'arrive, j'ai envie de dire, parce qu'on va dire depuis un petit peu plus d'un an, que des galères, mais toujours des projets et toujours tu rebondis, quoi, Fred.
Ah bah écoute, il faut, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et puis, les galères sont derrière moi, galères de santé en tout cas sont derrière moi, et là je suis même de retour au taquet, au top niveau de ma forme, donc tout va bien.
Écoute Fred, c'est avec grand plaisir qu'on apprend ça. Je pense que les gens qui te connaissent un petit peu savent que tu es remonté sur scène déjà depuis pas mal de temps, depuis janvier si je me rappelle bien.
Ah depuis janvier, voilà. Déjà on était de retour à fond en janvier, et puis après tout le monde sait ce qui s'est passé avec le confinement, donc ça nous a un petit peu sabré comme tout le monde quoi. Mais écoute, ça fait rien, ça permet de travailler sur d'autres projets.
Voilà, et puis justement, on en parlera en fin d'interview. Tu as un petit cadeau pour les auditeurs à propos du confinement et à propos du fait de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. C'est pas ton genre, Fred. Tu travailles toujours d'arrache-pied, voire même d'arrache-main, comme je l'ai entendu il n'y a pas longtemps.
Exactement. Alors, toi, t'as regardé le Fernando Rock Show.
Comment tu sais ça? Le Fernando Rock Show, c'est un truc que je découvre parce que je ne connais pas tout et ce ne sera jamais le cas. Que tu as déjà fait il y a 4 ou 5 ans et que tu viens de refaire à l'occasion de la sortie de cet album 25 Years on the Road. C'est un truc complètement démentiel avec un type mais vraiment pointu et genre Muppet Show quoi. Comment ça se passe ce genre d'interview? Dis-moi, raconte-nous un petit peu.
En fait, le mec est évidemment totalement inspiré du Muppet Show, mais c'est un genre de Muppet Show à la française, mais qu'avec des personnages qui sont très rockers, quoi, tu vois, très rock, très blues. En l'occurrence, là, je suis interviewé par Marcus, qui est tout bleu, qui a un maillot de Kiss, qui a des piercings et tout. C'est une marionnette, donc moi, si tu veux, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que quand tu fais une émission comme ça, il faut vraiment... regarder la marionnette dans les yeux et parler, répondre à la marionnette.
Bah, bien sûr.
Vraiment pas regarder le mec qui est en dessous et qui manipule la marionnette.
Ah, parce qu'il y a un mec en dessous, je savais pas compris ça.
Eh oui, il y a un mec, j'étais déçu, moi aussi j'ai cru qu'il existait réellement, mais non. Et effectivement, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Moi, ça m'éclate tellement qu'il n'y a aucun problème. Moi, quand je fais une interview comme ça avec un des personnages, je m'adresse au personnage et c'est lui qui me pose les questions. Moi, je kiffe ça, j'adore ça.
Ouais. Bah oui, c'est vraiment à l'américaine. Dans le Muppet Show version USA, il y a des tas d'artistes qui ont été interviewés.
Absolument.
Et puis des fois des gens de vraiment de renom. Moi je trouve que c'est un truc qui dure quoi, 25 minutes. Moi ça m'a éclaté. Je trouve que tu joues vachement le jeu en plus. C'est super.
Ah, parce que j'adore ça. Mais à chaque fois ils me le disent. Enfin, l'équipe du show me dit que c'est facile avec moi parce que je joue vraiment le jeu. Mais en fait je me force pas. C'est facile quoi. C'est juste parce que j'adore ça quoi.
Tu joues le jeu, tu as la distance nécessaire par rapport à ce genre de truc et c'est vrai que moi je suis très très bon client pour ce genre d'expérience.
Écoute, moi je pense que si on n'a pas d'humour, il faut vraiment se poser des questions quoi. Il faut quand même conserver de l'humour, de la simplicité et puis voilà, c'est quand même super. Déjà le mec il le fait super bien et les questions sont pointues, c'est pas n'importe quoi quoi. Le mec il pose des vraies questions pointues quoi.
Le Fernando Rock Show, on peut retrouver le lien sur le timeline Sweet Home Chicago sur le Facebook. Et également, j'engage nos amis auditeurs à poser leurs propres questions à Fred Chapelier, qui est là en direct avec nous dans ce 1082e Sweet Home Chicago. Alors, j'ai envie de dire, là c'est un petit peu l'heure du bilan avec ce 25 ans sur la route. Déjà, 25 ans, un peu plus quand même, non? Ou alors, c'est 25 ans sous ton nom?
En fait, c'est plus que 25 ans, évidemment, sur la route. C'est bien plus que 25 ans, mais on va dire que c'est 25 ans dans le monde du blues, à jouer le blues, à dispenser la parole du blues à travers la France et d'autres pays. Voilà, c'est vraiment 25 ans de blues non-stop, quoi.
C'est quelque chose que tu ressentais au fond de toi, Fred, le fait de vouloir faire déjà un bilan, parce que malgré cette, certains qualifieront de longue carrière, tu as encore plein de choses à dire, tu vas nous le prouver durant au moins les 25 prochaines années. Tu ressentais déjà le bilan obligatoire par rapport aux gens, un best-of?
Alors en fait, c'est pas un bilan pour moi. C'est juste... alors déjà, l'idée au départ ne vient pas de moi, mais l'idée vient de Dixie Frog, le label avec qui je travaille depuis 14 ans maintenant. C'est eux qui ont estimé que c'était une bonne idée de faire un best-of maintenant. Il y avait quand même pas mal d'albums à mon actif déjà depuis 2006-2007, ouais. Au moins chez Dixie Frog, parce que j'en avais fait d'autres avant, mais on a conservé évidemment que les albums et les titres qui sont sur les albums Dixie Frog. Mm-hmm. Alors moi, je vois pas ça comme un bilan, je vois ça de plusieurs manières. En fait, c'est pour moi une excellente solution pour les gens qui connaissent pas ma musique et qui ne me connaissent pas, de découvrir, parce que là du coup ils ont un très large panel, ils vont pouvoir avoir accès à ce que j'ai fait sur ces 15-20 dernières années. Oui. C'est vraiment un bon moyen pour découvrir ma musique, studio et live en plus, donc il se passe d'autres choses en live, et puis c'est plus pour moi le fait de fermer une première parenthèse de ma carrière et d'en ouvrir une nouvelle. Voilà. Alors, ferme une page et j'en attaque une autre.
Il y a eu d'autres pages comme ça, on en a eu l'occasion d'en parler il y a quelques mois, peut-être même un an ou deux, tu avais eu l'occasion de dire aux gens, ben voilà, Fred Chapelier, c'est fini en tant que tel, maintenant je démarre une nouvelle collaboration, en l'occurrence c'était avec Dale Blais, collaboration est maintenant terminée. Il y a eu plusieurs pages, on va dire, récentes dans ta carrière, ouais. Et puis là, quand tu dis j'ouvre peut-être un nouveau chapitre, ça sera pour aller vers quoi d'autre, hein?
Vers le disco, principalement.
Ah ben j'attendais
parce que
ça.
Je suis un grand fan des Bee Gees et donc je vais plus me diriger vers le disco.
Et le zouk aussi, peut-être, non?
Et le zouk, évidemment. plus sérieusement, effectivement, j'adore le rôle de sideman, c'est-à-dire d'avoir un chanteur qui est sur scène avec moi, qui chante le plus gros des chansons. J'adore ça et je continuerai à le faire. Ouais. Mais l'album des Gents avec Dale Blais a été finalement en demi-teinte. Les concerts ont été en demi-teinte et finalement je me suis dit on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et j'ai de nouveau plein de choses à dire. Sous mon nom à moi, quoi, des textes personnels, des musiques bien personnelles, et voilà, du coup, je redémarre vraiment sur les chapeaux de roue, sous le nom Fred Chapelier, et là, c'est pour quelques années, avec de la musique de Fred Chapelier, c'est-à-dire, j'ai fait des tributes, j'en ai fait deux, j'arrête là pour l'instant, je vais les tributes, je vais pas passer ma vie à faire que ça, même si je suis très fier et très heureux de les avoir fait, là, maintenant, vraiment, l'objectif dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, c'est continuer à faire vivre et à faire évoluer ma propre musique.
Voilà. Alors, tribute, bien sûr, on pense à Peter Green. Tu as également payé un tribute à Gary Moore, à Roy Buchanan, qui reste parmi les fers de lance, ceux, on va dire, qui t'ont le plus influencé, en dehors d'Albert King, qui lui aussi compte beaucoup. Moi, j'ai vu une vidéo cette semaine, là, où tu réessayes ta guitare d'il y a 40 ans. Et on entend Albert King, des fois.
C'est indéniable, parce que Albert King est aussi les trois plus importants, je le dis tout le temps, hein, c'est Peter Green, Roy Buchanan et Albert King. Voilà. Ce sont les trois dont je pourrais jamais me passer, quoi. Voilà.
Je reviens sur les invités dont certains figurent sur ce best-of 25 Years on the Road. Tu disais concert et participation demi-teinte avec Dale Blais. Est-ce que tu ressens une déception par rapport à cette collaboration-là? Est-ce que tu aurais fait les choses autrement?
Alors, non, je ne regrette rien du tout de ce qui a été fait. Vraiment, on a fait l'album qu'on devait faire à ce moment-là. J'y croyais vraiment énormément et j'y crois toujours. Je veux dire, on est tous très satisfaits de cet album, mais il n'a pas été aussi bien perçu et le projet dans son ensemble n'a pas été aussi bien perçu que j'aurais souhaité. Voilà. Et du coup, on n'a pas, avec ce projet-là en tout cas, parce que je continue à tourner sur mon nom en parallèle, mais avec ce projet-là, on n'a pas tourné comme on aurait dû, on n'a pas vendu le nombre d'albums qu'on aurait dû vendre. Voilà, et comme on était nombreux dans ce projet, faire tourner tout ce monde-là, ça a un coût, et c'était devenu compliqué. Donc j'étais obligé de prendre une décision, et voilà. Voilà.
D'accord.
Mais j'ai aucun regret. Vraiment, je prends toujours plaisir à écouter cet album, et voilà. Mais un petit peu déçu du résultat, finalement, au niveau du nombre de concerts suite à ça, du nombre d'albums vendus, qui a été très moyen, quoi.
On aurait pu imaginer une tournée US avec Del Blaine, non ? Au moins avec un passage à Memphis, à la Nouvelle-Orléans. Enfin, il y a des choses.
Ouais. Bah, on y a travaillé, et puis on a eu plein de possibilités. Puis finalement, c'est très très complexe et très compliqué de faire venir tout un groupe. Alors on voulait nous faire venir Dale et moi, et jouer avec des Américains sur place. Mais ouais. Pour moi, les Gents, c'est Christophe Darrow à la basse, c'est Guillaume Destarac à la batterie, c'est Baco à l'armo, et Philippe Bilouin au clavier. Donc c'était tout le monde ou personne, quoi. En gros, pour ce projet-là, c'était vraiment un groupe, quoi. Fred Chapelier de Gents, voilà, les gentlemen, ils étaient essentiels dans ce projet-là, et voilà, ça a été compliqué, puis après, et puis je dois admettre que humainement, c'était assez compliqué aussi.
D'accord.
Voilà, pour être tout à fait franc, avec les auditeurs que je salue au passage, d'ailleurs, tout le monde, c'était un petit peu compliqué par moment, donc, je préfère avoir des scissions avec moi-même, tu vois, m'engueuler moi-même,
oui.
Que m'engueuler avec les autres.
Bah oui, pourquoi aller au clash alors qu'on pourrait faire plus simple, on est bien d'accord.
Exactement.
Par contre, avec Billy Price, la tournée des 10 ans, tout ça, enfin voilà, ça se passe toujours bien, c'est toujours cool avec le Pete Burke, l'ancien chanteur de Roy Buchanan, rappelons-le.
Ah ben avec Billy Price, c'est toujours un bonheur absolu, et de plus en plus chaque année, parce que même si pour l'instant on travaille dans l'ombre tous les deux, on continue de bosser l'un pour l'autre.
Ouais.
Sans arrêt, c'est-à-dire qu'à chaque album, Billy me demande de lui composer 2 ou 3 titres, et à chacun de mes albums, je lui demande de m'écrire 2, 3, 4 textes. C'est le cas en ce moment, il travaille sur des textes pour mon futur album, je travaille sur des musiques pour son futur album. On n'a qu'une envie, mais là, avec la crise sanitaire qu'on connaît, c'est impossible, mais on n'a qu'une envie, c'est de retrouver ici ou aux États-Unis pour travailler sur éventuellement quelques nouvelles chansons. Pour nous, voilà un garçon avec qui il est très facile de travailler. On va exactement dans le même sens, et avec Billy, c'est pas du tout impossible qu'on refasse un album studio, un de ces quatre. Moi, j'aime les projets parallèles.
Il y a un artiste qui nous a quitté. Je voulais t'en parler parce que on en a longuement parlé lors de la dernière émission. Il nous a quitté le 25 juillet dernier. Il s'agit de Peter Green, un garçon bien sûr qui fait partie de tes inspirations de longue date. Je voulais savoir quel était ton sentiment à la disparition de Peter Green le 25 juillet dernier.
Ben en fait, j'ai l'impression qu'on l'a perdu 2 fois, Peter Green.
Ouais.
Oui, on l'a perdu une première fois en 70. Suite à cette fameuse histoire allemande où il s'est retrouvé à prendre des substances à l'insu de son trajet, on va dire, voilà, et il s'en est jamais vraiment remis, quoi. Il a été fortement affecté, d'ailleurs il a arrêté pendant 10 ans après, hein, au moins. Donc on l'a quand même un petit peu psychologiquement perdu à ce moment-là, et puis là il est, voilà, c'est le corps qui a dit stop. Et il est parti, mais je suis très triste de cette disparition, évidemment. Je m'étais arrangé pour qu'il ait mon album où je reprenais ses chansons. Voilà, j'étais en contact avec certains membres de sa famille et on essayait de commencer à s'apercevoir une rencontre. Voilà, j'aurais bien voulu rencontrer, mais j'avais pas eu le temps, malheureusement. Et ça c'est un regret. Ça, c'est vraiment un regret.
Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait dans les années 90-2000 avec le Splinter Group?
Ah ben sincèrement, je suis obligé d'être honnête.
Oui.
Je trouve que c'est pas terrible. Je trouve que c'est pas terrible, mais il y avait toujours des éclairs de génie. C'est-à-dire que sur 1h30 de concert, il pouvait y avoir 10 minutes, un quart d'heure où on retrouvait quelques notes absolument flamboyantes et quelques. Il avait plus beaucoup de voix non plus, mais par contre, il avait toujours une émotion évidente dans sa voix. Après, guitaristiquement, quand on connaît le Peter Green de la grande époque, c'était pour moi très compliqué de l'écouter à cette époque-là, quoi.
Ouais.
Donc moi, j'ai jamais trop été fan de ce qu'il a fait après 80, après 80, quoi, après 72 même, on va dire, quoi.
Voilà. Alors, on oppose souvent le Fleetwood Mac des débuts, qui était très blues et qui était sous la houlette de Peter Green jusqu'en 70 environ, et puis le Fleetwood Mac qui a ensuite connu un succès mondial, qui a fait partie des 10 groupes qui ont vendu le plus de disques au monde, avec notamment Rumours en 75 ou Tusk en 79. Et j'ai appris un truc tout récemment, je savais pas, Tusk, sur le titre album en 79, Peter Green joue de la guitare et n'est pas crédité, tu savais ça?
Je ne savais pas, tu me l'apprends.
Ça, ouais. C'est très étonnant, hein. 1979, donc on pense qu'il est encore vraiment au creux de la vague, et pourtant il fait partie de cet album qui a été mythique, un double album de Fleetwood Mac qui s'est vendu à des millions d'exemplaires.
L'album, effectivement, est mythique, mais je suis totalement passé au travers, tu vois, tu peux bien me le dire, je vais réécouter, rejeter...
Qui n'est pas blues du tout, attention, voilà.
Oui, je sais, mais je connais très bien le Fleetwood Mac, deuxième période, hein. Je connais très très bien, qui est un très bon groupe d'ailleurs, mais un groupe qui est devenu beaucoup plus pop.
Bien sûr.
Excellent groupe avec des hits planétaires, voilà, absolument.
Voilà, Fred, on va parler bien sûr d'autres musiciens que tu côtoies maintenant au présent. Et puis tout à l'heure, une dédicace qui m'a été réclamée par notre amie commune Maryse, extrait des United Guitars Volume 1. Je sais que United Guitars Volume 2 est en préparation, voire même en finition. Comment ça se passe ce projet? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi une suite? Ça avait si bien fonctionné que ça, la première édition?
Franchement, pour une première édition, ça a très bien fonctionné.
Super.
Très, très bien. Ouais, à une époque où le CD se vend très mal, de plus en plus mal, cet album s'est très bien vendu pour un premier album, pour un premier projet. Il y a eu énormément de retours positifs. Et là, du coup, Ludovic Egras, qui est le rédacteur en chef du magazine Guitar Extrême, donc avec sa maison de production, a souhaité continuer l'aventure et convoquer d'autres guitaristes. Alors, il y en a certains qu'on retrouve sur le volume 2 qui étaient sur le volume 1, plus pas mal de nouveaux venus sur le volume 2, dont Yarol Poupeau d'ailleurs, mon pote Yarol,
d'accord,
qui est là aussi, avec qui je joue un titre d'ailleurs, sur le volume 2. Voilà, il y a du beau monde, et c'est vraiment, vraiment passionnant, parce que on est tous amoureux de la même chose, un bout de bois avec 6 cordes, et on en fait tous des choses différentes, que ce soit du blues, du soul, du rock, du métal, tout ce qu'on veut, mais au moins, c'est une équipe de passionnés qui se retrouvent pour se faire plaisir autour de la guitare, et il se trouve qu'il y a encore énormément de gens qui sont intéressés par la guitare. Donc ce projet marche très bien. Je pense que le volume 2 s'annonce vraiment vraiment super bien. Là c'est totalement fini, le mixage est terminé depuis hier en fait.
Ah oui, c'est tout récent, d'accord.
C'est tout récent, tout récent. J'ai eu la chance d'écouter les titres. Moi je suis quand même sidéré, quoi, parce qu'il y a une grande qualité d'enregistrement, de mixage, et une grande qualité musicale de la part de tout le monde. Voilà, moi je crois énormément à ce projet, et encore une fois, comme j'aime avoir plusieurs cordes à ma guitare, c'est un bonheur absolu de faire partie de cette aventure.
Avec des artistes de toute génération, j'ai envie de dire, et également de toute notoriété, puisqu'on retrouve des gens comme Yvan Guivic, mais également Norbert Krief quand même, Axel Bauer, Julien Bitoun, Pierre Dallel qui a un grand rôle aussi à jouer là-dedans. Et puis je t'avouerai que la plupart des autres noms, ils font pas forcément partie de notre idiome blues au stricto sensu. Et moi je découvre, j'ai découvert à l'écoute de ce volume 1 plein de belles choses, dont ce Back to Earth que tu fais en instrumental, sur lequel tu ne prends pas de solo d'ailleurs.
Je prends sur la version studio, je prends tous les thèmes, voilà. Et je prends aucun solo. C'est Axel Bauer qui fait le premier solo, Ludovic et Graf fait le premier et Axel le deuxième. Oui, c'est ça. Et moi, je prends tous les thèmes. En fait, j'ai composé complètement ce morceau et je leur ai dit, voilà. Jouer là, mais je me suis dit, tiens, une fois n'est pas coutume, je prends pas de solo. Alors, il y a une version live qui sortira sûrement un jour, qu'on a enregistré pendant le concert de sortie d'album à Paris, où je prends évidemment un solo, j'en ai rajouté un troisième pour moi quand même, et il faut quand même pas déconner, non? Mais en studio, j'avais vraiment envie de m'axer vraiment sur la composition du titre et de mettre en valeur les autres, voilà.
On viendra sur United Guitars volume 2, mais on va revenir tout de suite sur 25 Years on the Road. Je te propose qu'on écoute un extrait du premier CD, le Studio 1, puis on se retrouve juste après pour la suite de l'interview, Fred.
Eh ben super, avec plaisir.
À tout de suite.
À tout de suite.
Un extrait, un nouvel extrait de ce disque du mois pour Sweet Home Chicago, Fred Chapelier, 25 Years on the Road, toujours au téléphone avec Fred en direct. Ça va, Fred?
Ouais, super.
Voilà,
super.
On vient d'écouter donc Something About You, extrait du CD 1 studio. Il y a aussi un CD 1 live, mais là, on.
Mais oui, parce que j'explique. Attends, j'explique. On est d'accord, c'est un coffret avec deux disques.
C'est ça.
Et il y a un premier CD studio et un premier CD live.
Voilà,
tu vois,
on est bien voilà. D'accord, c'est exactement ça.
Voilà.
Et ce que je te disais en antenne l'autre jour, c'est que quand on sera en 2045, moi je serai toujours à la radio, toi tu seras toujours au bout de ton micro et de ta guitare, et puis il y aura un CD 2 studio et un CD 2 live. On est d'accord.
Exactement, t'as tout compris, je prévois à long terme.
Excellent. Voilà, l'humour qui te caractérise, Fred. Fred, on en parlait tout à l'heure avec le Fernando Rock Show, se confirme. Les collaborations, voilà, on a parlé de beaucoup de gens. Il y a un garçon qu'on a déjà évoqué dans des interviews ensemble, mais sur lequel on pourrait s'étendre un tout petit peu plus. C'est quelqu'un qui t'est cher, je crois que c'est un bon ami. Je parlais d'Alain Rivet, Lilfoot Rivet. Je suis retombé sur un album Dixie Frog de 2015, c'est pas si vieux, qui s'appelait Southern Echoes. Il n'y a absolument rien acheté dans ce qu'il fait. Et c'était à l'époque déjà produit par Philippe Langlois. À l'arrivée, vous êtes connu comment avec Alain ?
C'est très simple. On s'est connu au New Morning il y a une vingtaine d'années.
Ouais.
Parce qu'il faisait tourner un bluesman américain du nom de Monty Amundson. Je ne sais pas si tu as connu ce bluesman qui était excellent et qui a malheureusement pas fonctionné en Europe. Dommage.
Jamais entendu parler, je te dirais franchement, non, je connaissais pas.
Monty Amundson, vraiment, c'est à écouter.
Ouais.
Super voix, je comprends pas que ça n'ait pas fonctionné.
Ah oui, parce que Hamilton, c'est du lourd quand même, on est d'accord.
Oui, carrément. Mais il y a 20 ans, en plus, en plein regain du blues rock et tout, lui, il était très blues, rock'n'roll, quoi. Et bref, c'est là où j'ai rencontré à l'arrivée, parce qu'il faisait tourner ce garçon. Entre autres, et on m'a présenté Alain, qui s'occupait d'Euroblues à l'époque,
oui.
Sa boîte de tourneurs. Et voilà, donc on a commencé à discuter, c'est ça, il y a une vingtaine d'années, et après on s'est revus à différentes occasions jusqu'à ce qu'il me demande de réaliser un de ses albums en 2007. 6 ou 7, ça fait quand même 13 ou 14 ans.
Mmh.
Voilà. Et depuis, en gros, c'est un peu comme avec Neil Black, Billy Price. Ce sont des gens avec qui je travaille régulièrement. Et l'autre côté, c'est pareil, parce que je considère que c'est vraiment un garçon très talentueux qui n'a pas la reconnaissance qu'il mériterait vraiment.
Il a une
voix quand même exceptionnelle pour le blues. Il écrit des textes absolument incroyables. Il maîtrise totalement l'anglais. Vraiment un mec de grande qualité. Et puis, il se trouve qu'on s'entend très bien, qu'on a des atomes crochus. C'est comme ça. Hein. Il y a des gens avec qui t'en as, d'autres moins. Mais avec lui, voilà, ça se passe vraiment bien. Et on continue de travailler sur plusieurs petites choses. On fait d'ailleurs un concert très bientôt ensemble.
C'est ça. Je crois le 27, c'est au Zapping à Grande-Synthe, c'est ça. Hein.
C'est ça, exactement.
Et, et également avec Christophe Garraud à la base, je crois, tous les trois.
Exactement. On fait sans batterie, on fait formule légère, basse. Alain va jouer un peu de guitare, un peu d'harmonica, il va surtout chanter. Et moi, je vais faire un peu de guitare, je vais chanter un petit peu, je vais faire. Voilà.
Voilà, formule Covid, quoi, hein, on va dire.
C'est un peu ça.
On écoute un extrait de l'album Southern Echoes par Lilfoot Rivet à l'arrivée. Alors, il y a une autre question qui m'arrive, Fred, c'est quand on fait de la musique avec quelqu'un, c'est pas tout à fait comme quand on travaille dans le même espace, quand on fait n'importe quel travail. Est-ce qu'il faut forcément de l'amitié, ou est-ce qu'il faut au moins de la sympathie, de l'estime, ou est-ce qu'on est capable, comme ça, très professionnellement, de travailler avec des trous du cul ?
alors j'évite de travailler avec des trous du cul.
Je sais ça, oui, mais ça peut arriver quand même si on t'impose quelqu'un.
Ça peut arriver, ça m'est arrivé, mais j'évite le plus possible. Alors c'est vrai que j'ai quand même de la chance, parce que tous les gens avec qui je travaille principalement actuellement sont des gens avec qui je m'entends vraiment vraiment très très bien, et je préfère ça largement. Mais il m'est arrivé de faire un job parce que j'avais été engagé pour le faire, et que ça soit humainement compliqué.
D'accord.
Mais en général ça dure pas très longtemps, parce que ça me fatigue et j'ai pas envie de ça, quoi. Voilà.
Ouais.
Il faut quand même, pour bien bosser, il faut quand même qu'il y ait une super entente humaine déjà, avant toute chose, et si en plus musicalement on s'entend bien, c'est encore mieux, quoi.
Et puis l'amitié, par contre, n'est pas toujours au rendez-vous. Je veux dire, on peut bien s'entendre et puis ensuite ne plus se voir pendant 10 ans. Par contre, un véritable ami, c'est quelqu'un qu'on revoit 10 ans après peut-être, et puis avec qui on va échanger comme si on s'était revu la veille peut-être. Je sais pas, quelle est ta définition de l'amitié à toi, Fred?
Ben ouais, l'amitié, c'est ça, en fait. D'ailleurs, on pourra en parler, mais j'ai un bon exemple actuellement, mais voilà, pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire, quoi. Un gars que tu vois pas pendant 10, 15, 20 ans, 25 ans, et tu le retrouves et t'as l'impression que tu l'as vu hier, quoi. Mmh. Tu vois, c'est ça, un ami. C'est aussi quelqu'un sur qui on peut compter, et quelqu'un qui va être là, encore plus dans les moments difficiles. Ouais. Tu vois, j'ai traversé des moments difficiles l'an dernier. Très très dur et finalement je me suis rendu compte que des amis j'en ai mais bien moins que je pensais en avoir voilà, mais en tout cas les amis qui me sont chers sont avec moi actuellement.
C'est ce que tu écris, Fred, sur ton album 25 ans sur la route. Ce sont 25 années de travail acharné, de sueur versée, de doutes, de fatigue, de joie, de choix, de magnifiques rencontres artistiques, de déceptions, de stress, de franches rigolades, d'attentes, de voyages, parfois de larmes, de fierté, d'opportunités, d'embûches, mais surtout 25 ans de pur bonheur, et tout cela grâce à vous qui m'êtes fidèle depuis le premier jour et qui me soutenez toujours plus. Je ne sais pas si l'entité qui nous surveille de là-haut me permettra de rempiler pour 25 ans, mais comme on dit, ce qui est pris n'est plus à prendre et je n'aurai aucun regret. Une chose est sûre, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque instant et je continuerai à le faire. Merci du fond du cœur. Fred Chapelier.
Eh oui. Ben, je crois que pour une fois, j'ai dit quelque chose de bien.
Pour une fois.
Non, mais ça m'a pris quand même au moins 20 minutes pour rédiger ça.
Oui, ben, bien sûr.
Mais je le pense totalement. Ouais. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Ça résume parfaitement ce que je viens de traverser sur 25 ans, quoi. Il n'y a pas que des moments positifs, il y a des moments... très noir aussi, hein. Il y a des moments très, très compliqués, mais tout ce que j'en retire, c'est que tous les moments compliqués, sombres et négatifs sont balayés en deux secondes dès qu'on met un pied sur scène. Mmh. Tu vois ? Donc, voilà, on monte sur scène, même si on est crevé, on a dormi 3 heures, on monte sur scène, on voit le public qui a le sourire, qui est là pour vraiment profiter de ta musique, de ta propre musique. Qu'est-ce que tu veux mieux? C'est un luxe, c'est un grand luxe de vivre de sa passion, de sa propre musique.
Ah oui, c'est un luxe,
donc,
oui, bien sûr.
Donc ça mérite quand même quelques sacrifices et ils sont bien peu de choses par rapport à tout le bénéfice qu'on obtient, quoi.
Ouais,
voilà.
Qu'on retire de tout ça, effectivement. Fred, tu l'as souligné tout à l'heure, ça fait 14 ans que tu collabores avec le label Dixie Frog, et il se trouve que dans le tout nouveau Blues Magazine, numéro 98, qui est sorti hier, on consacre pas mal de pages à Dixie Frog, hier et aujourd'hui, 1986-2020, autrement dit, déjà 34 ans d'existence pour le label, dirigé par Philippe Langlois, qui vient de passer la main. Et il y a une des questions dans laquelle il t'évoque, quand Blues Magazine demande, y a-t-il eu des artistes qui t'ont le plus marqué que d'autres, si oui, lesquels? Alors, Philippe Langlois cite bien sûr Papa Tchoubi, Eric Bibb, Jean-Jacques Milto, et dit, j'ai beaucoup apprécié aussi mes relations avec Fred Chapelier et Neil Black, qui continuent tous les deux à œuvrer avec la nouvelle équipe, à laquelle je prédis un grand avenir. Ils amèneront certainement le label plus loin que je n'ai pu le faire. Tu as l'intention, Fred, d'aider la nouvelle équipe de Dixie Frog à faire ce que demande Philippe Langlois?
Ah mais oui, mais totalement, parce que déjà Philippe Langlois c'est vraiment un homme que je respecte. C'est le mec le plus sincère, le plus droit que j'ai pu rencontrer dans ce job, quoi.
Ah ouais, ouais.
C'est-à-dire que Philippe, c'est quand même le gars qui est capable de me dire avant de lui présenter des nouveaux morceaux, tout ça, ce morceau-là, je le sens pas, machin. Voilà. Tu vois, on ne brosse pas que dans le sens du poil. C'est un mec vraiment honnête et qui a fait vraiment, vraiment tout ce qu'il a pu à son niveau pour emmener le label le plus loin possible. Et là, il a senti qu'il était temps de passer la main parce qu'avec les nouvelles technologies, tout ça, ben voilà, Philippe, quand même, c'est un jeune homme encore dans sa tête, mais il a quand même déjà un bon vécu derrière lui.
Oui.
Et il a senti que c'était le moment. Et effectivement, la nouvelle équipe, André et François, sont très à la page par rapport aux nouvelles technologies, à Internet, au streaming, à tout ça. Donc, c'est vraiment la continuité avec l'esprit Philippe Langlois qui est toujours là, tu vois. Il est d'ailleurs toujours consultant pour le label. Hein,
ouais,
Philippe,
ouais. C'est,
et, ouais.
C'est la question que j'allais poser, Philippe, et il fait toujours partie de l'équipe en tant que consultant, en tant que conseiller, j'imagine, depuis 34 ans qu'il œuvre assez décidé. Il fallait bien deux types, hein, André et François, il en fallait bien deux pour remplacer Philippe Langlois, lui, tout seul. Hein.
Ah, mais oui, mais complètement. Mais complètement. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont très complémentaires, André et François. Mmh. Voilà. Ils sont hyper complémentaires, et puis ils sont surmotivés, et Dieu sait si c'est pas évident en 2020 d'être surmotivé pour vendre des disques,
parce que
le marché du disque s'effondre un peu plus chaque année, mais ils sont boostés à fond, ils sont très très dynamiques, ils ont plein d'ouvertures avec plein de médias, là je suis en promo pour le double best-of, et il y a vraiment des belles choses qui arrivent avec des médias nationaux, enfin vraiment, 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 c'est bien. C'est un renouveau pour le
blues en France,
mais tout en conservant quand même l'esprit d'origine de Philippe. Et Philippe étant donc consultant toujours pour le label.
Voilà. Et donc, ça m'amène à te poser la question par rapport à Dixie Frog. Comment est-ce que tu as fait le choix? Comment est-ce que tu as pu puiser dans tous ces titres? 34 titres en tout, hein, 18 studios et 16 live. Tu as collaboré avec eux. Vous étiez toujours d'accord sur le choix des morceaux?
Alors en fait, on s'est dit, faisons chacun notre liste de morceaux, notre liste. Et Dixie Frog a fait sa liste, j'ai fait la mienne, on a comparé, et à 90-95%, on est tombé totalement d'accord.
Donc
il restait 10 ou 5% à combler, et ça a été très facile, parce que moi je voulais ajouter deux ou trois titres qui n'avaient pas été cités.
En bonus.
Et puis deux bonus, tu vois. Donc voilà, le disque a été complet. En un quart d'heure, c'était plié, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Ouais.
Très bien. Best of 25 Years on the Road chez Dixie Frog, Fred Chapelier. Disque du mois pour Sweet Home Chicago, et puis d'autres récompenses qui t'attendent, bien sûr. Mais là, l'expérience est là. Après 25 ans de scène et même plus, on en a parlé. Est-ce que l'expérience t'amène le fait, Antoine, d'avoir envie de te tourner vers les plus jeunes, comme par exemple des gens comme Lionel Blues Gang? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi de commencer à passer le flambeau maintenant? Parce que ça a été le cas il y a quelques années avec Charlie Faber, qui poursuit la carrière qu'on connaît avec Rosedale. Maintenant, Gypsy Vaquette et Lionel Werner en bénéficient, j'ai envie de dire, de ton aide.
Ouais, en fait, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Déjà parce que si je peux donner un coup de main et grâce à ma notoriété dans le monde du blues, aider des gens en qui je crois, et ben je le fais avec plaisir. En l'occurrence, Lionel et Gypsy, avec leur groupe Lionel Blues Gang, vraiment, quand j'ai entendu l'ébauche des morceaux, je me suis dit, il faut vraiment aller plus loin, parce que ça mérite vraiment l'enregistrement d'un album, et j'ai tout de suite proposé d'aider, de réaliser, de produire, de coproduire l'album, de le mixer, de masteriser. Lionel étant un ami, on s'est quand même rencontré en 1975, quoi.
C'est ce que dit le groupe, hein, Fred Chapelier, l'ami de 45 ans, où le grand frère de Lionel, avec qui enregistrait ses titres, échangeait les solos, bref, partageait ses instants, a été un véritable flashback de leurs jeunes années, quand ils écoutaient ensemble les mêmes vinyles à longueur de journée. Alors moi, j'imagine qu'à l'époque, on est en 75, t'as quoi? T'as 9 ans, 75 maximum?
En 75, j'ai 9 ans, et Lionel a 6 ans.
Mmh. Oui, et là, vous écoutiez Annie Cordy toute la journée, évidemment.
Bah, bien sûr, et Pierre Perret aussi, surtout live à Budokan. Oh, ouais.
et 45 ans après, il y a la réalisation de ce disque. Alors, on en parlera avec Lionel et Gypsy, bien sûr, puisqu'ils sont invités de Sweet Home Chicago le 10 octobre prochain. Mais également, tu figures sur le disque, et même tu chantes sur un des titres.
Hein. Oui, en fait, ils voulaient faire une seule reprise, le fameux Walking by Myself.
Jimmy Rogers.
Et puis, Neil Black et moi étions prévus pour chanter avec Gypsy.
Ouais.
Et comme par hasard, notre ami commun, Leadfoot Rivet, s'est pointé au studio.
Tiens donc.
Et on a dit, avec Lionel, Gypsy, on peut pas le laisser assis dans le fauteuil à nous regarder chanter alors qu'il a une voix incroyable.
Surtout...
Et donc, tout le monde a dit c'est une bonne idée de lui laisser un couplet, un refrain, et voilà, il s'est retrouvé à chanter aussi sur le morceau. Ouais.
Très bien, donc voilà, on suivra ce Lionel Blues Gang également, découvert grâce à toi, hein, parce que voilà, en fait, je ne connaissais absolument pas cette toute jeune formation. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'écouter un petit morceau bonus que tu offres aux auditeurs, mais en attendant, je pense qu'on est très loin de Noël encore, mais tu vas t'en rendre compte, c'est pas si loin que ça. On va te souhaiter, bon, on va te souhaiter ça, tiens. Nouvelle rubrique dans Sweet Home Chicago, figure-toi. Écoute bien, Fred. Voilà, we wish you a Merry Christmas. C'est un petit peu tôt, je sais, mais là, j'ai devant moi trois boîtes, Fred. Alors écoute bien, la règle du jeu est très simple. Il y a trois numéros. Il y a le numéro 1, le numéro 2. Je te laisse deviner quel est le suivant.
Le 4.
Le 4, voilà. Donc tu choisiras entre trois boîtes. Et puis, on va ouvrir la boîte ensemble. On va voir ce qui se trouve à l'intérieur. Qu'est-ce que tu choisis comme numéro, Fred ?
Eh bien, la 3.
Ah, mais j'ai pas la 3, j'ai la 4 si tu veux, mais.
Ah, t'as pas la 3. Bah, écoute, la 4 alors.
Alors, j'ouvre le cadeau. Alors attends, parce que ça se fait pas comme ça. Attention, voilà. À l'intérieur, je vois Fred Chapelier est reçu à l'Elysée avec une récompense Arts et Lettres.
Ouais, bon.
Alors le but étant de dire ce cadeau-là, il est sympa, mais moi je préfère peut-être ouvrir une autre boîte, puis à la limite, quand tu auras ouvert les trois, tu pourras choisir ton cadeau. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Fred ? Je zappe cette récompense et puis je reviens à la boîte numéro 2.
Alors la boîte numéro 2, on y va. Je lis Fred Chapelier, élu numéro 1 des ventes aux États-Unis.
Je prends.
Tu prends ?
Ben oui, je prends.
Ah, génial. Et donc, ça veut dire que là, tu as refusé les distinctions macroniennes et que tu préférerais être numéro 1 aux États-Unis chez Donald. On est bien d'accord, hein ?
C'est ça. Oui, mais il n'y a rien de politique, tu vois. Tu vois, je n'ai pas envie d'aller à l'Élysée et me mélanger avec des gens du monde de la politique. Mais là, au niveau des ventes aux États-Unis, Donald Trump n'y est pour rien, quoi. Tu vois ce que
clair,
je veux dire. Voilà. Donc je prends ce cadeau.
Très bien. Alors, c'était la boîte numéro 2. Et puis, pour savoir, peut-être que tu m'as dit que tu vivais sans aucun regret. Donc, peut-être que tu n'auras pas le regret d'avoir ouvert la boîte numéro 1. Est-ce que tu veux quand même savoir ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte numéro 1 ?
Mais bien sûr.
Allons-y. Je lis à l'intérieur Fred Chapelier, nouveau guitariste des Blues Breakers pour John Mayall.
Ah, alors, oui, évidemment. Mais à choisir, je préfère être numéro 1 des ventes aux États-Unis. donc, j'ai aucun regret.
Donc, aucun regret, impeccable.
Non. Mais... J'aurais évidemment adoré jouer pour John Mayall, mais bon, voilà. C'est comme ça.
C'est une chance qu'a partagé un de tes amis qui s'appelle Buddy Whittington.
Oui, il a été guitariste de John Mayall pendant 15 ans.
Incroyable, ouais. Incroyable. 15 ans, et puis il a succédé à des gens aussi incroyables, divers et variés, que Coco Montoya, Peter Green, qui lui-même a succédé à Eric Clapton, Mick Taylor.
Beaucoup d'autres, ouais. Ouais.
Donc voilà, c'est une distinction qui va t'échapper. J'en suis désolé pour toi, Fred.
Eh oui, écoute, c'est tout. Pas grave.
Voilà. Je voudrais évoquer avec toi pour terminer cette interview en direct. Quels sont les souhaits qu'il faut faire pour toi pour le prochain quart de siècle? Parce que 25 ans, ce best-of, bon ben voilà, on est en 2020. Les 25 prochaines années nous emmènent jusqu'en 2045. Qu'est-ce qui va se passer, outre le fait que tu vas devenir numéro 1 aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, Fred?
Écoute, la même chose qu'à tout le monde, que la santé soit toujours là le plus longtemps possible pour que je puisse continuer à exercer ma passion et mon métier et continuer à dispenser la bonne parole,
oui.
Tu vois, voilà le souhait le plus important, en tout cas si je parle au niveau de mon boulot, de la musique, voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai envie de continuer à voir les gens, monter sur scène, écrire des chansons, enregistrer des albums, et puis voilà, c'est vraiment le souhait numéro un. Je peux rien demander de mieux, je veux dire, je suis conscient de, même si ça n'a pas toujours été simple, comme je le dis dans mon album, ça a été compliqué au début. Les 10 premières années ont été compliquées, hein. Mais voilà, c'est quand même une grande chance. C'est un luxe de pouvoir faire ce que je fais dans des conditions tout à fait acceptables. Et voilà, pour que ça dure.
Tout à fait. Ça, c'est une excellente réponse, Fred, comme toutes les autres d'ailleurs.
Merci beaucoup.
Dernière question, avant de présenter le titre qui va arriver. D'ailleurs, c'est toi qui présenteras le titre prochain. Ton album pour 2021, je crois que c'est prévu pour le printemps. Il est déjà bien avancé. Il y a déjà des invités qui sont pressentis, qui sont peut-être déjà enregistrés. Je ne sais pas où est-ce que tu en es de cet album.
Alors, j'ai plus qu'avancé. Il y a 60% de l'album, 70% de l'album qui est prêt.
Yes.
Ah oui, déjà. Et après, ça sera l'ajout de cuivre sur certains titres, avec une section de cuivre de très haut calibre, voilà, de très haute volée. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que bon, avec cette période, c'est comme les invités, c'est quand même compliqué en ce moment
d'être sûr à
100%.
Voilà,
tu vois,
il y a des
invités prestigieux prévus sur deux ou trois titres. Hein. Il y aura juste deux ou trois titres avec quelques guitaristes en invité. Ça sera des guitaristes, hein, pas de chanteurs.
D'accord.
Voilà, plutôt américains. Là, j'ai vraiment envie de continuer à me faire plaisir, mais sur ma propre musique, quoi. Je vais les faire jouer quelques titres sur mes morceaux à moi, quoi.
Yes.
Voilà,
et puis
quelques solos de guitare sur mes morceaux à moi. Ouais.
Et puis bien sûr des amis, hein. On est d'accord pour rejoindre la question précédente. Voilà, cet album, tu penses le sortir pour quelle période? Avril, mai 2021.
Ben écoute, c'est ce dont on avait parlé avec Dixie Frog, avec la nouvelle équipe de Dixie Frog, mais en ce moment, tu sais que c'est un peu au jour le jour, tout peut arriver. On était parti sur le printemps 2021, mais c'est pas impossible que ça soit repoussé à septembre ou octobre 2021.
D'accord.
Voilà. Donc voilà, c'est encore un petit peu flou à ce niveau-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai des chansons vraiment, vraiment, vraiment abouties, avec encore une fois des collaborations au niveau des textes, Billy Price, Neil Black. Moi, j'ai écrit d'autres textes aussi. Vraiment, j'ai travaillé dur là pendant 4 ou 5 mois. On a eu le temps, évidemment, comme tu le sais.
Ouais.
Donc, j'ai bien avancé. Je suis très, très, très satisfait de ce que j'ai pour l'instant. Et maintenant, ça va être, on va peaufiner tout ça avec les cuivres, avec les invités. Voilà, quelques petites retouches guitaristiques à faire pour moi et batteristiques à faire pour Guillaume Destarac. Et puis, ça sera dans la boîte. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte que ce nouvel album sorte et qu'on puisse le défendre dans des conditions normales sur scène.
Voilà, bah oui, c'est ça l'essentiel, parce que les ventes de disques sont aussi au même thermomètre que le nombre de concerts, on est bien d'accord.
On est bien d'accord.
Quand on arrive à vendre 2 ou 3 000 disques, on se dit, bah tiens, finalement, c'est un bon début, quoi. On en est rendu là, maintenant.
En gros, c'est ça. Hein. En gros, dans le monde du blues, quand maintenant tu arrives à vendre 3 000 disques, c'est bien, quoi.
Ouais.
C'est bien, quoi.
Ouais.
Ouais.
Fred, ça sera la toute dernière intervention avant la fin de cette interview. D'abord, merci d'y avoir participé en direct live comme d'habitude, ou presque. La dernière fois, c'était en différé, mais c'était dans les conditions du live. Je te laisse nous présenter le morceau qui arrive. C'est un petit cadeau que tu as décidé de faire aux auditeurs de Sweet Home Chicago.
Eh oui, comme j'aime faire des cadeaux, j'ai horreur de recevoir des cadeaux.
Ah, mais tu viens d'en recevoir un pourtant, et il était magnifique celui-ci.
Oui, mais celui-là, je le prends celui-là. j'aime par contre en faire, voilà, et puis les auditeurs qui t'écoutent depuis toutes ces années méritent aussi de temps en temps qu'on leur fasse un petit cadeau. Donc c'est un blues qui s'appelle Ventilator Blues qu'on a composé avec justement l'immense Buddy Whittington, guitariste
génial.
De John Mayall, guitariste texan, qui est vraiment un bon ami à moi. Et bon, allez, normalement, lui sera sur l'album. Allez, voilà.
Mais j'ai rien dit. Voilà.
Et là, c'est un blues qu'on a fait pendant le confinement pour s'amuser tous les deux. Et je me suis dit, allez, offrons-le aux auditeurs de Sweet Home Chicago.
C'est génial. Merci beaucoup, Fred. On se quitte avec ça. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la route du blues. Merci, Fred.
Ça sera toujours un plaisir. Merci, Marco. Merci à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
You gotta listen to the governor. Wear your mask, your gloves, and stay 6 feet apart. Don't wanna catch you in a restaurant. Thank you.
c'est la fin de ce Sweet Home Chicago. Je vous donne rendez-vous samedi 10 octobre. Non, sans vous rappeler la sortie de Blues Magazine numéro 98 avec Dixie Frog en couverture et Soulbag numéro 240 avec Cédric Burnside. Salut, bye bye.